Bonjour, vous écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Le secteur des soins de santé accueille de plus en plus de travailleurs étrangers. On va voir si c'est de nature à combler les pénuries. Mais d'abord, c'est historique. Les députés européens se sont mis d'accord sur un texte pour réguler les usages de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Le Parlement européen a adopté ce mercredi la première législation mondiale pour réguler les effets de l'intelligence artificielle, l'AI Act, un texte plus axé sur la régulation que sur l'innovation. On va décrypter tout ça avec Philippe Laloux du Pôle Économie.
Bonjour Philippe.
Bonjour Pierre.
En quelques mots, c'est quoi cet AI Act? C'est un texte pour réglementer tout le secteur de l'intelligence artificielle?
Alors, c'est plus que le secteur, mais c'est plus les usages, on en parlera j'imagine, hein, de l'intelligence artificielle. Donc, en clair, c'est un règlement qui fixe un cadre pour développer, utiliser tous les outils qui sont nourris, biberonnés avec des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, on pense évidemment à ChatGPT, mais il faut savoir que l'IA existe depuis 50 ans, en fait, hein, et donc elle est déjà utilisée quotidiennement dans toute une série de secteurs pour rendre d'ailleurs de fiers services, hein, on pense à la médecine ou le climat, etc. Et donc, bon, ça touche moins évidemment ces usages-là, mais ici, l'idée était vraiment d'encadrer tous ces outils qui ont fait leur apparition depuis un an, hein, et dont on parle tous les jours.
Vous venez de donner de nombreux exemples de ce que peut être l'intelligence artificielle, et c'est justement un des intérêts de ce texte, c'est d'avoir donné une définition précise, d'avoir placé des mots précis sur ce que c'est l'intelligence artificielle.
Oui, et quelque part il était temps, parce que mine de rien, on l'oublie parfois, mais l'intelligence artificielle, en réalité, c'est une technologie qui est déjà née dans les années 50, et donc quelque part, on joue un petit peu avec le feu, avec des outils dont on ne savait pas très bien de quelle technologie les relevait. Et là, de fait, on essaye de circonscrire un certain nombre de technologies. La définition est quand même intéressante parce qu'ils définissent ça comme des systèmes basés sur une machine, c'est quand même déjà important, et qui ont des objectifs explicites ou implicites. Hein. Donc ça, c'est aussi subtil à partir des entrées qu'il reçoit. Donc c'est toutes les requêtes que vous faites dans le ChatGPT ou les données qu'on utilise. Et pour des objectifs qui sont définis ici et qui sont intéressants, par exemple pour faire des prédictions de contenu, des recommandations, des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels. Et là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on désigne très précisément des systèmes dont les décisions pourraient avoir un impact sur votre vie, en fait, ou sur notre environnement. Et ça, dès lors qu'une machine prend des décisions à votre place, ça pose problème. C'est ce que la Commission pointe du doigt là aujourd'hui.
On a déjà eu l'occasion de parler contrôle de l'intelligence artificielle dans différents podcasts, et vous m'aviez dit qu'il y avait un petit peu deux tendances, une qui plaidait pour plus de régulation, une qui plaidait pour plus d'innovation. Là, avec l'AI Act, ce sont les régulateurs qui ont gagné.
Alors, comme tout texte politique, on est ici en face d'un compromis. Alors, évidemment que ceux qui plaidaient pour une régulation ultra stricte seront déçus, et ceux qui plaidaient pour une innovation de type Silicon Valley où la liberté d'entreprendre est reine seront sans doute déçus. Donc ici, à court terme, une vision à court terme, on pourrait dire que c'est quand même la régulation qui l'emporte, parce que clairement ici, il faut appeler un chat un chat. C'est un texte qui régule, mais il y a toute une série de subtilités quand on lit parfois aussi entre les lignes qui laissent clairement des portes ouvertes pour permettre à des entreprises, des start-up, des scientifiques de développer malgré tout des systèmes et de s'exercer dans ce qu'ils appellent d'ailleurs des bacs à sable, mais qui doivent être déclarés. Donc on ne freine pas l'innovation, je ne pense pas, et d'ailleurs la majorité des députés ne l'ont pas pensé non plus puisqu'ils ont voté majoritairement pour ce texte, tout en étant attentif à l'innovation. Ce que le message, c'est plutôt on ferme la porte aux apprentis sorciers.
Ici, l'idée, c'est de réguler les usages de l'intelligence artificielle plutôt que les outils. On entend quoi par là? Ça veut dire quoi, réguler les usages?
Alors oui, c'est ce qui est assez fou dans ce texte, c'est qu'en fait, quand on a commencé à en discuter, ChatGPT n'existait même pas. Et donc, très très vite, la question s'est posée de savoir, mais comment est-ce qu'on fait pour réguler des trucs qui n'existent pas encore? Et en préparant ce podcast, parce que oui, on prépare les podcasts du soir, je pensais à une petite comparaison qui est peut-être un peu douteuse, mais pourquoi pas, avec le code de la route. En fait, quand vous lisez le code de la route, Je ne pense pas qu'on définit dans le code de la route un cahier des charges qui dit ce que doit être une voiture. Le code de la route s'adresse aux usagers de la route. Eh bien, on est dans ce registre-là. Donc, on va définir les usages. Peu importe ta voiture, si demain, quelqu'un, quelque part, invente une voiture qui roule au jus de betterave ou à l'eau usée, eh bien, le code de la route ne changera pas, un feu rouge restera un feu rouge. Et c'était aussi la seule manière pour le législateur européen de rencontrer et d'embrasser, quelque part, tous les enjeux de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des enjeux géopolitiques, sociétaux, éthiques, économiques. Et donc, la seule manière, c'était de pointer des usages et en quatre catégories, hein, du moins dangereux au plus dangereux.
Ça veut dire qu'on peut déjà dire qu'il y a une partie des usages qui sera interdite, il y a une partie des choses qui seront bannies, on peut déjà le dire aujourd'hui ?
Alors c'est ça, dans la catégorie risque extrêmement élevé, donc on retrouve toute une série de choses que normalement donc, nous ne devrions jamais avoir en Europe. Et la première chose à laquelle on songe, évidemment, c'est le système de notation sociale à la chinoise. Vous voyez, en Chine, donc, les citoyens font l'objet d'un score social qui est défini en fonction de toute une série de paramètres, mais en clair, leur docilité à des règles édictées par les autorités. Mais il y a des tas d'autres choses qui rentrent dans cette catégorie d'usage interdit. Par exemple, les deepfakes, pour le faire en cours. Donc, ils appellent ça des systèmes qui manipulent nos systèmes cognitifs, en fait, et qui peuvent influencer les comportements individuels. Alors, par exemple, aussi la collecte aléatoire de données via des technologies de reconnaissance faciale ou de vidéosurveillance. Alors, je n'ai pas dit que la reconnaissance faciale, alors c'est ça, c'est un point évidemment qui sera amplement discuté par des organisations de défense des droits humains. La reconnaissance faciale n'est pas interdite, mais ce qui est clairement interdit ici, c'est la récolte aveugle et aléatoire et massive de données. Donc ça va pas. Alors il y a des trucs qui peuvent parfois faire flipper, hein. Donc par exemple, on n'y songeait pas, mais il est possible avec l'intelligence artificielle de reconnaître les émotions des gens, par exemple sur le lieu de travail. Ça va être évidemment totalement interdit, ou à l'école aussi. Interdiction aussi d'exploiter des vulnérabilités, par exemple dues à l'âge ou à un handicap. Interdit aussi, par exemple, d'opérer des traitements biométriques qui permettraient de déterminer votre orientation sexuelle, vos opinions, votre orientation religieuse, etc. Donc tout ça est exclu du champ de l'IA à l'européenne.
Donc il y a les usages qui sont effectivement bannis, il y en a qui ne seront pas bannis, mais qui sont considérés comme étant, je cite, « à risque élevé ». Pour ces usages à risque élevé, ça implique quoi pour les développeurs ?
Donc, clairement, il y a toute une série d'usages qui seront dans le collimateur et dans le radar de la Commission européenne. Ce sont des systèmes qui pourraient avoir une incidence préjudiciable sur la santé, la sécurité, les droits fondamentaux, etc. Et donc, on met là-dedans toute une série d'outils qui existent déjà, ce qu'on appelle des machines médicales. Par exemple, tout ce qui est chirurgie assistée par robot. Alors, il y a un point d'attention sur l'éducation, donc les notations d'examen, ce sera donc dans le collimateur. Tout ce qui relève des ressources humaines, par exemple, tout ce qui permet de faire des tris de CV, les voitures autonomes aussi, la justice, etc. Et au rayon risque élevé, et ça c'est un petit peu la surprise du chef, parce qu'au départ la commission ne l'avait pas mise, mais c'est le Parlement qui est venu avec ça, on retrouve ChatGPT. Donc, qui sont des intelligences artificielles dites génératives et dont les usages peuvent poser question et seront soumis à un contrôle. Et donc, en clair, tous ces fournisseurs de services devront montrer patte blanche à la Commission et donc remettre des rapports de transparence et se mettre en conformité. Donc, c'est un peu comme quand le RGPD est arrivé pour réguler l'usage de nos données personnelles, et bien les entreprises ont dû se conformer au RGPD. Et bien, ces entreprises vont devoir se conformer à l'AI Act de la même manière.
Ça veut dire que la philosophie générale, elle favorise plutôt les systèmes ouverts, ceux qu'on appelle en open source.
Alors ça, c'est aussi une petite surprise du chef. Que petite subtilité, donc on retrouve, je vous ai dit, ChatGPT dans la catégorie à risque très élevé, mais comme par hasard, on ne retrouve pas deux start-up européennes, une française qui s'appelle Mistral et une allemande qui s'appelle Alpha Alep, et qui fournissent des systèmes tout à fait comparables à ChatGPT. Mais la différence, comme vous l'évoquez dans votre question, c'est que le premier, ChatGPT, mais on peut aussi citer Gemini de Google, par exemple, sont des systèmes dits fermés. C'est-à-dire que quand vous utilisez ce système, vous ne pouvez pas commencer à le customiser à votre guise pour créer votre propre environnement et avec vos propres données. C'est un système dit fermé, un peu comme un programme de la suite Office hein, de Microsoft. Ici, les systèmes en question développés en Europe sont plutôt des systèmes dits ouverts, donc qui font apparemment preuve de plus de transparence. Le code, je ne sais pas que le code est accessible, mais on laisse une certaine indépendance à l'utilisateur. Il peut l'utiliser en circuit fermé et l'adapter à ses propres usages avec ses propres données. Et de fait, le signal donné par la Commission, c'est de favoriser davantage les systèmes ouverts au détriment des systèmes fermés, et le hasard fait bien les choses, les systèmes ouverts sont plutôt européens. Business is business. Hein.
Réguler un texte de loi, c'est bien, mais comment est-ce qu'on va s'assurer que ces dispositions seront respectées? Qui est-ce qui aura la lourde tâche de vérifier tout ça?
Alors, déjà, il ne fonctionne pas seul. Hein. Donc, l'AI Act s'articule avec d'autres textes, on l'a cité, le RGPD, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a aussi le Digital Services Act, par exemple, qui sont vraiment les piliers de cette Europe, de ce marché unique numérique qu'on entend mettre en place. Donc, il y a toute une série de garde-fous de contrôle qui existent déjà aujourd'hui grâce à d'autres instruments. En ce qui concerne l'AI Act, eh bien, figurez-vous qu'au mois de février, ça nous a un peu échappé, il y a un office européen de l'intelligence artificielle qui a vu le jour, et ce bureau européen va constituer en quelque sorte le centre d'expertise de l'IA en Europe, et c'est à lui qui reviendra de contrôler l'application de l'AI Act en créant des outils, des méthodologies, des critères pour évaluer les modèles d'IA, etc.
La suite du parcours législatif de ce texte, maintenant, c'est quoi? Les États membres doivent l'approuver, et puis on pourrait assister à une entrée en vigueur l'an prochain, en 2025?
C'est ça, parfait. Donc c'est un règlement, donc il s'applique d'office de manière harmonisé partout en Europe, donc il n'y a pas d'interprétation nation par nation, même si, par exemple, c'est marrant, mais aujourd'hui, le hasard du calendrier, en France, il y a un groupe d'experts qui a remis un rapport à Emmanuel Macron pour développer l'IA en France, et on voit déjà qu'on tord le cou un peu à différentes législations pour pouvoir avancer ses pions et mettre en avant ses champions nationaux. Donc très clairement, ce texte, par exemple, tord déjà le coup au RGPD. Donc il dit oui, mais pour l'IA, on pourrait tout de même accepter que les données personnelles soient davantage utilisées. Et donc là, on voit bien que même si l'AI Act va s'appliquer de manière harmonisée au 27, eh bien chacun va essayer de le tordre à sa manière. Mais de toute façon, la Commission ou la Cour de justice européenne sont toujours derrière pour veiller au gré.
Et on suivra ça évidemment avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Philippe.
Merci Pierre.
Depuis plusieurs années, le secteur des soins de santé fait face à une pénurie de personnel. Pour combler ce manque de main-d'œuvre, le secteur se tourne de plus en plus vers des travailleurs étrangers. Des chiffres compilés par le spécialiste RH Acerta montrent que dans ce secteur, la part des travailleurs étrangers est en hausse de près de 30% en 5 ans. La pénurie de personnel est-elle la seule raison derrière cette augmentation? Dans quel secteur des soins de santé ces travailleurs sont-ils les plus actifs? Julien Cambier a posé ces questions et d'autres à Sandra Durieux, journaliste santé au sein du pôle Société.
Bonjour Sandra.
Bonjour Julien.
Que représente cette hausse de 30% et est-ce qu'on observe des augmentations similaires dans d'autres secteurs?
Donc c'est une hausse importante dans les soins de santé, justement en rapport à ce qu'on peut constater dans les autres secteurs qui emploient des personnes salariées, où là on voit qu'on a en tout cas cette dernière année ou au moins une stabilisation, voire une légère baisse, donc on est à moins 0,8% tout secteur confondu. Donc oui, donc cette hausse de 30% en 5 ans, elle est vraiment importante. Mais en réalité, les soins de santé comblent un certain retard puisqu'historiquement, ils employaient moins de travailleurs de nationalité étrangère en raison essentiellement de la barrière de la langue et aussi de l'équivalence des diplômes qui est compliquée et fastidieuse à obtenir. Et qui, en tout cas en Belgique, on demande un certain standard de qualité au niveau des soignants. Et donc cette équivalence de diplôme, selon les pays où on a fait ses études, est plus difficile à obtenir que dans d'autres.
Est-ce que la pénurie dans le secteur des soins de santé est la seule raison qui explique cette hausse ?
Alors c'est une grande raison évidemment, hein, puisque on sait qu'on manque de personnel infirmier, on manque de médecins, mais aussi on manque surtout de personnel ouvrier, donc ceux qui travaillent dans les cuisines, dans le nettoyage, dans la manutention. Et c'est dans ce sous-secteur-là des soins de santé qu'on voit qu'il y a la plus grande proportion de travailleurs de nationalité non belge. Donc effectivement, la pénurie est une des raisons, mais aussi c'est Philippe De Vos, donc le directeur général d'UNESA, qui explique que on peut aussi y voir un effet des étudiants issus des pays européens limitrophes, donc la France, les Pays-Bas, qui viennent à un moment donné faire leurs études chez nous, leurs études de médecine ou d'infirmière, qui sont quand même des longues études, et qui finissent par s'installer parce qu'ils ont rencontré l'amour, parce qu'ils ont découvert ici un certain confort de vie. Et donc ça, c'est pas inhabituel aussi. Donc ça peut aussi s'expliquer comme ça.
Est-ce que des filières ont été mises en place pour tenter de contrer cette pénurie et pourraient aussi expliquer la hausse de ces dernières années ?
Alors, ils ont essayé de mettre des filières avec certains pays en dehors de l'Union européenne, mais comme l'expliquait Philippe De Vos, il y a un certain nombre de ces filières qui ont été abandonnées en raison des standards de qualité des diplômes qui ne sont pas atteints, c'est-à-dire que c'est pas tellement l'origine de la personne qui importe, c'est plutôt la qualité des études qu'elle a pu mener, peu importe le pays où elle l'a mené, qui quand on engage ces personnes et que sur le terrain elles ne sont pas aussi efficaces ou n'ont pas les mêmes compétences que ce que leur diplôme pouvait laisser espérer, ça ne donne pas de bons résultats, et donc ces filières ont été abandonnées. Mais il existe encore des filières, notamment dans les pays de l'Union européenne en provenance de l'Italie, de la Roumanie, voilà.
Et quelles sont les nationalités les plus représentées ?
Alors, pour les travailleurs en provenance de l'Union européenne, on a d'abord les Néerlandais, puis les Français, puis les Allemands, puis les Polonais et les Roumains. Alors, les Néerlandais, les Français, les Allemands, là, ça s'explique évidemment par le fait que ce sont des pays limitrophes. Comme je disais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'étudiants de ces pays qui viennent faire leurs études en Belgique, où il n'y a pas d'examen d'entrée pour les études d'infirmier ou de médecin, et donc qui finissent par y rester. Et évidemment, il y a aussi la question de la langue. Donc les travailleurs néerlandais vont travailler en Flandre, les Français en Wallonie, et allemands, on peut supposer effectivement que c'est plutôt du côté de la communauté germanophone du pays. Et donc il y a aussi les travailleurs en provenance des pays en dehors de l'Union européenne. Et en réalité, ces travailleurs-là sont plus importants que les travailleurs issus des pays de l'Union européenne. Et là, dans le top 3 des pays les plus représentés, on a d'abord le Maroc, puis le Congo et ensuite la Turquie. Et ces travailleurs sont essentiellement dans les soins résidentiels, les soins de réadaptation, c'est-à-dire les maisons de repos et les soins aux aînés. Et donc ça, c'est une forte proportion de ces travailleurs qui sont là-bas. Voilà, Philippe De Vos l'explique par le fait que ce sont des professions qui sont un peu délaissées par le personnel soignant belge ou issu peut-être de l'Union européenne. Je veux dire, il y a une mauvaise image du métier de soignant en maison de repos ou de soins aux aînés, tout simplement. Le Covid n'a pas aidé à redorer le blason de ces fonctions. Mais par contre, culturellement, les travailleurs issus des pays d'Afrique francophone, évidemment, arrivent avec leur vision et leur valeur par rapport aux soins aux aînés. Et donc, eux sont plutôt fiers de travailler dans ce secteur et donc sont plutôt en recherche de postes dans ce secteur.
Est-ce que cette croissance qu'on observe depuis 5 ans va continuer ? Qu'est-ce qui pourrait la freiner ?
Le frein, ça reste la langue. Hein. Ça, c'est évidemment surtout parmi les soignants. Alors, c'est peut-être moins le cas dans le secteur ouvrier, parce qu'on a peut-être... on doit moins utiliser de termes techniques ou être plus précis dans la communication avec les gens. Mais pour les soignants, c'est clairement le cas. Et c'est aussi la question d'équivalence des diplômes qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir les mêmes standards en Belgique et dans un autre pays de l'Union européenne. Puis bon, bah, ce qui pourrait freiner, c'est évidemment les mesures politiques qui pourraient être prises pour revaloriser le métier d'infirmier, de médecin, tel que c'est revendiqué par le secteur. Et voilà, prendre des mesures pour faire en sorte que les études soient plus attrayantes, que les postes soient plus attrayants, ce genre de choses.
Merci Sandra.
Merci Julien.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.